Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 24. Tourloutoutou, la roue, c'est tout. Il y a quelqu'un, chers amis, bonjour. Quelqu'un que tout le monde connaît et que pourtant, on ne connaît pas son nom. C'est la dame ou le monsieur qui a inventé la roue. Oui, oh, c'était il y a longtemps, mais vous imaginez que si cette personne avait été procédurière, elle aurait déposé le brevet dans une caverne où il n'y avait pas de notion de tomber dans le domaine public, et l'inventeur de la roue continuerait à toucher des copyrights chaque fois que l'on descend l'avenue des Vosges à Strasbourg, à vélo, à trottinette ou même en voiture. Et vous imaginez la fortune. Alors, vous tous autour de la table, vous avez tant d'imagination. Quelle invention aimeriez-vous promouvoir pour devenir milliardaire? Alors, nous avons, quel nom prédestiné, Gabriel Rothschild, qui est propriétaire de toutes les librairies de Strasbourg. On racontera après, hein, comme les restaurants, vous avez tout raflé. Claire Crésus, qui est l'inventeuse de la vis sans fin, dont tout le monde a besoin, et donc ça vous fait une fortune formidable.
Oui, si.
Ozu Richard, Kanemotsi Tsoya, Orfeo de Leoro, qui est orpailleur et qui est venu spécialement du Brésil pour nous, ici.
Directement.
Directement. Et Cléopâtre, Suzu, qui est diamantaire. Alors, on doit souvent confondre votre prénom. On vous appelle Cléopâtre. Alors, Cléo de 5
comme
à 7.
Comme vous venez de le faire, d'ailleurs.
Comme je viens de le faire, oui. Mais c'est Cléopâtre.
Tout à fait.
C'est un magnifique prénom, pas seulement parce que votre nom et votre nez est magnifique, mais être diamantaire. Tout de suite, on se dit, elle doit avoir vachement de pognon, cette nana, non?
Vous savez, Ambroise, j'ai quelques soucis, à vrai dire.
Ah?
Parce que, voyez-vous, les diamants, c'est assez petit.
Allô, c'est Macha même... Allô, Macha? On va appeler Macha pour même... les soucis.
C'est même très, très petit, en fait, les diamants. Et moi, j'ai tendance, parfois, à les laisser échapper de mes doigts. Et quand il se colle entre deux lattes de parquet, c'est irrécupérable. Irrécupérable.
Même avec une pince
un
à
Dyson,
épiler.
Non, un Dyson. Non.
Ouais, le Dyson, c'est un petit peu trop brusque pour le pauvre petit diamant tout minuscule.
Le Dyson, c'est quoi?
C'est cette
machine qui souffle.
C'est le
c'est Claire Crésus, hein, là, qui nous
l'aspirateur explique. Vedette des Britanniques, hein. Celui qui...
C'était Hoover.
Ah, non.
C'est pas ça.
Vous datez, mon cher Ambroise.
Ah bon, non,
Dyson.
Pour aspirer la fortune.
Oui, non. Et c'est non. D'ailleurs un aspirateur à fortune, puisqu'il s'est installé en Malaisie pour donner du travail aux Malaisiens, et surtout pour éviter les impôts. Ouais.
Ah bon. Ouais, voilà. Alors justement, est-ce que vous payez beaucoup d'impôts, vous qui avez, vous êtes sans travail, mais c'est formidable. Vous avez inventé donc la vis sans fin.
Ah oui.
Le vis sans fin ou la vis sans fin?
La vis sans fin.
Et donc, ne rougissez pas. Et donc, vous avez des droits d'auteur, hein, sur la vis sans fin. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Les copyrights?
Oui,
c'est la propriété
industrielle. C'est un brevet déposé à Munich Non, pas de problème. Hein. J'ai veillé au grain. Et parce que cette vis sans fin qui s'utilise à peu près à tous les moments de la vie, elle sert à tout.
Et combien de zéros vous avez à votre fortune?
Je compte même plus. Mais je paye mes impôts.
En France?
En France, bien sûr. Hein.
Ah bon, sûr.
Et partout où je suis installée. Ne m'appelez pas Elon Musk. Ou comment il s'appelle?
Oui. Bon, ces gens riches qui nous narguent, voilà.
Enfin, voilà, moi je suis riche, mais je ne vous nargue pas.
Alors, Gabriel, vous êtes riche, alors on ne va pas vous demander l'origine de votre fortune, Mais vous avez fait comme certains Strasbourgeois là, qui achètent 4, 5, 6, 8, 10 restaurants. Vous, vous avez racheté toutes les librairies de Strasbourg. Alors, les petites librairies, c'est des endroits où on perd de l'argent, donc c'est un peu du philanthropisme. Donc, racontez-moi ça, votre alors, amour des livres.
Alors, après un terrible Covid, mon destin s'est complètement transformé et j'ai effectivement racheté des librairies que fréquentent des intellectuels, des personnes fortunées, etc. Mais après cette maladie, j'ai décidé de les réserver à des personnes qui vivent dans la rue. Ce serait une espèce de bibliothèque idéale qui réunirait des personnes qui ont un vocabulaire plus pauvre et qui s'enrichiraient beaucoup de tout ce que l'on peut trouver dans une librairie. Et voilà une forme de richesse, de croissance que j'envisage pour l'avenir.
Alors, je vais être très sarcastique. Est-ce que les gens qui sont dans la rue et qui, visiblement, ont beaucoup de temps, est-ce que vous les voyez avec un livre en train de lire ?
Vous avez raison. Il faudrait des passages progressifs. J'en connais certains.
Parce que, ce sont des gens... On l'a déjà dit, mais Proust, c'est comme une drogue. Hein. Vous leur filez La Recherche du Temps Perdu et après, ils vont lire pendant 20 heures par jour.
Écoutez, alors, pour les fréquenter de temps à autre, je sais qu'ils ont énormément d'humour. Ils sont très, très intelligents. Il leur manque simplement le solfège et ce seraient des gens qui, grâce à des médiateurs, pourraient découvrir et faire découvrir une autre leur propre littérature et découvrir la littérature, la grande littérature.
Est-ce qu'on peut imaginer une librairie où il n'y aurait que Proust dedans, rien d'autre ? Je ne sais pas si ça serait rentable.
Pour un début, ce serait peut-être un peu difficile ou ennuyeux. Mais avec des traducteurs, des traductrices talentueuses. Alors, pas traductrices au sens propre, mais traductrices dans les formes de langage, gestuelles, théâtrales. Voilà, on peut inventer des tas de formes de langage.
Ce serait comme théâtre avec...
Autour d'un verre de vin, pourquoi pas, d'un bon repas, d'autres formes d'approche qui permettraient de...
Moi, je trouve que l'Office du tourisme, on devrait promouvoir, par exemple, des boulangeries qui n'auraient que les tartes au fromage. Il n'y aurait que ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Assez d'accord.
Je pose la question à Ouzou, qui est un peu gastronome. D'ailleurs, expliquez-moi votre métier. Donc, Kanemotsi Choya.
Merci beaucoup. Moi, donc, j'ai inventé, à l'instar d'un personnage de Villiers de l'Isle-Adam, une femme parfaite.
Ah.
Parce que vous savez, de nos jours, il n'y a que des femmes grossières, vulgaires, tout ce qu'on voudra.
On proteste.
Cléopâtre.
Heureusement, dans ce studio, ce n'est pas le cas, mais ailleurs, bien sûr.
Non, mais nous sommes des militants féministes.
Oui, mais par exemple, lorsque je me promène dans les rues strasbourgeoises, si j'entends parler des filles, elles ne disent que des choses comme « Ah, ça me fait chier », quelque chose comme ça. Donc là, j'ai inventé une fille qui ne dit que, par exemple, des choses comme « Ah, mon cher, je trouve ça ignoble, c'est exécrable », quelque chose comme ça. Au lieu de dire « ça me fait chier ».
Vous avez inventé une femme ennuyeuse, en fait.
Pas forcément, parce que il n'y a pas que la parole, donc ça va encore. Donc.
Ouais, mais est-ce que vous allez gagner de l'argent avec cela ?
C'est difficile parce que, vous savez, tout le monde n'a pas du goût, donc ça c'est...
C'est le manque de goût, donc les gens aiment le vulgaire.
Oui, parce que forcément il y a des... pour ce genre de filles grossières, il y a des correspondants, donc malheureusement, je ne peux pas gagner ma vie comme j'aurais voulu.
Oui. Alors, il y a quelqu'un qui, autour de cette table, est riche d'avance. Alors, il n'est pas seulement riche de promesses, de mots, de vocabulaire et tout. Lui, il se met à quatre pattes dans les rivières et il sort des lingots d'or. Enfin, je ne sais pas. Quelle est la taille de l'or que vous trouvez, Orfeo d'Aloro, dans les rivières au Brésil ?
Alors, justement, j'ai le même problème que Cléopâtre ici présent. Mais lingots d'or, comme vous dites, font la taille d'un millimètre, donc d'une poussière. C'est pour cela que c'est assez difficile de les extraire de la terre. Alors évidemment, nous avons des filons. Parfois, nous tombons sur des gros filons quand nous creusons assez profond. Mais là, il y a la difficulté, puisque creuser assez profond signifie des jours, des semaines, voire des mois d'efforts. Une pioche à la main et avec un sacré cœur d'acier, mental de même, pour pouvoir atteindre ces filons. Les filons qui sont difficiles à trouver et qui sont une métaphore pour la richesse du savoir des inventions que nous avons autour de cette table, évidemment.
Oui, alors justement, je fais appel à la mémoire de nos chers auditeurs. Mmh. Il y a quelques épisodes, nous avions évoqué la richesse du vocabulaire français avec cette fameuse phrase « Mais où est donc or, Nicar ?» Alors, voilà. Est-ce que Nicar a trouvé de l'or? Ça, c'est une question...
C'est clair qu'il a trouvé de l'or.
Oui.
C'est sûr,
c'est
même.
Clair, oui.
Oui, oui. Oui. Il y a de nombreuses études historiques récemment qui ont découvert des tablettes qui nous permettent de dire avec assurance que Nicar a trouvé de l'or.
Oui, mais... c'est bien. Et est-ce que le diamant fait partie de ce vocabulaire un petit peu... qui fait rêver comme ça, sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Parce que c'est... Bon, on dit le diamant est éternel, mais on pense tout de suite à James Bond, donc c'est...
C'est-à-dire, le diamant est éternel aussi longtemps qu'on ne l'égare pas entre deux lattes de parquet, voyez-vous. Mais vous m'avez donné une idée. J'ai bien envie d'inventer le lingot de diamant. Ça éviterait ce problème, voyez-vous.
Mélanger dans de la tarte au fromage.
Oh, pourquoi pas? Mais alors, ça, c'est une tarte au fromage pleine de fèves, en fait. On vient d'inventer le...
Non, alors le fromage qui servirait à coller les diamants entre eux.
Oui, oui, ensuite, oui.
Le liant du diamant.
Le liant.
Oui. Oui.
Le liant du diamant.
Ça va faire la fortune des dentistes.
Hein. Oui. C'est un petit peu dommage de gâcher de la tarte au fromage blanc, non?
Oui.
Avec du diamant.
Ça, avec
pauvre
du diamant.
Fromage.
Pauvre fromage, oui.
Oui. Voilà.
Ce qui pourrait peut-être faire rêver à l'heure actuelle, c'est l'opale. Avec tout le mystère qu'elle recouvre,
ah,
beaucoup
oui.
plus que le diamant, qui semble plus commun, l'opale.
Ah, l'opale.
Oui. L'opale.
Oui, c'est la côte aussi.
La côte d'opale. Hein.
La côte d'opale. Oui. Oui.
Oui.
Et il y a Pale Rider, le oui, film de Clint Eastwood,
ah,
qui est absolument formidable. Oui, oui. Ozu, vous qui êtes cinéphile, est-ce que vous avez vu tous les films de Clint Eastwood?
Non.
Non.
Parce que, bon, d'abord, c'est un Américain, donc il y a quelque chose qui ne va pas, donc vous savez, avec
vous avez cet ostracisme.
Oui, c'est ça, c'est pour ça, oui. Donc j'ai préféré regarder des films de Julien Duvivier, donc, pas ceux de Clint Eastwood.
Oui, c'est pas la même époque et c'est pas le même endroit, mais c'est pas grave. Mais alors, est-ce qu'il y a des westerns japonais?
Oui, sinon, il y a. Bon, par exemple, vous savez, il y a un film très célèbre de Kurosawa, Sept Samouraïs.
Les Sept Samouraïs,
bon,
oui.
Vous savez,
les avec
Américains,
des remakes.
Oui, donc justement, aux États-Unis, on a fait un remake.
Les Sept Mercenaires. Oui, mais alors, Les Sept Samouraïs, ça se passe, je crois, au Moyen-Âge. Hein. C'est pas...
Japon féodal, effectivement.
Oui, mais... oui. Et c'est l'apologie de la guerre civile. En plus, donc, c'est rigolo, non?
Écoutez,
c'est
en
le film de Kurosawa.
Il y a eu les western spaghetti, il y a les western sushi, c'est comme ça, il faut garder voilà. l'esprit ouvert.
Oui, et alors, bientôt, en Alsace, les western tartes flambées.
Ah oui,
ah, mais absolument. Absolument.
Vous êtes d'accord. Moi, je pense qu'on pourrait faire fortune, hein, pour revenir au sujet de notre épisode, on pourrait faire fortune en faisant des westerns tartes flambées.
Pizza.
La guerre.
Ah non, pas de pizza.
Ah non,
non
de pizza.
Il y a déjà les spaghettis.
La guerre des larmes.
C'est des lasagnes.
Non, le pire que l'Italie ait donné au monde, c'est d'une part le fascisme et d'autre part la pizza.
Elle n'est pas italienne. Elle n'est pas italienne.
Ah bon?
Je suis italienne.
Vous avez un livre qui raconte que la pizza n'est pas italienne?
Oui.
Oui,
allez-y, Gabriel.
J'ai suivi un reportage à la télévision de deux pizzaioli qui sont exceptionnels. Ils ont démontré que la pizza avait pour origine, en fait, je crois, la Grèce ou
la Corse, peut-être.
Oui, c'était au début une pâte cuite à laquelle on a, au fur et à mesure, ajouté des ingrédients. Mais
oui. Ben, là, ça me fait penser à quelque chose. Lorsque vous demandez une tarte flambée, on dit,
ben voilà,
on dit normale, nette.
Une normale.
Alors, ou normale,
une gratinée.
Ah voilà. Alors, normale, ça veut dire ordinaire aussi. Hein, je crois, je cite pas le restaurant. Mais maintenant, vous demandez gratinée.
Ouais.
Hein, ou alors au Munster.
Aux pommes.
Alors ça, c'est après pour le
au
dessert.
Au Calvados.
À l'ail des ours.
Oui. Et vous avez même des pizzas. Alors, vous rajoutez... des crevettes, des tomates, des capres, des anchois, et ils ont même changé le nom, justement, ils appellent ça, pourtant c'est alsacien, des pizzas.
Hein. Ouais.
C'est des tartes flambées.
En fin de compte, toutes ces polémiques sur l'origine de la pizza qu'on dit venir de Naples, hein, on peut dire raisonnablement que ça paraît simple.
Manger une pizza et mourir.
Voilà. Mais malheureusement, je pense que c'est faux. Je pense que la pizza est née en Alsace.
Oui.
C'est-à-dire un jour où un cuisinier alsacien n'ayant plus de lardon et trouvant quelques vieilles tomates dans son frigo, a décidé de
faire avec la recette.
Mais voilà, oui. Avec les moyens du bord.
C'est vrai que les traditions sont faites pour être complètement
trahies. Moi, j'ai trouvé la vie sans fin un jour où je m'ennuyais considérablement. Et j'ai traduit cet ennui dans une... Mmh. Dans un...
Ah oui,
oui. Mais bon, il ne faut pas manger de pizza lorsqu'on n'a pas faim, sans faim, parce que... c'est très mauvais. C'est traître, c'est comme la tarte flambée. Vous êtes là avec les amis, c'est sympa, on en mange, encore une, oui, puis vous mangez juste un tout petit bout, mais à la fin, vous en avez mangé, et puis c'est après qu'il faut prendre... de la Alka-Seltzer ou autre chose, ou du
citrate de bétaïne.
Le citrate de bétaïne.
Surtout si vous avez bu pas mal de pinot noir. Alors, ou de pinot.
J'aimerais juste passer un appel international, une alerte internationale. Parce que, tout à fait, cette théorie de l'origine alsacienne de la pizza, j'y crois très très fort. J'y avais jamais pensé, mais c'est vrai. Je pense que ça tient la route.
Et c'est pour ça que tous les Alsaciens devraient être riches. On devrait faire fortune.
D'ailleurs, oui, tout à fait. Mais surtout, j'aimerais avertir tous les potentiels inventeurs de la tarte flambée à l'ananas que c'est hors de question. La pizza s'est laissée faire, elle est devenue hawaïenne. Ça n'arrivera pas avec la flamme cuche.
Ah oui, mais c'est Balzac qui voulait faire ça. Parce qu'il a planté des ananas dans la banlieue de Paris. Et comme débouché, il avait pensé faire des pizzas à l'ananas pour tout le 14e arrondissement. Bon, ça n'a pas marché, il a perdu sa fortune, mais c'est vrai. Hein,
grâce à ça, Balzac étant si malheureux dans les inventions, grâce à ça, on a une magnifique œuvre littéraire.
Bah
parce
oui,
qu'il
parce
fallait
qu'il...
quand même bien qu'il gagne son pain.
Bah, il fallait qu'il rembourse ses dettes et donc il a écrit des livres.
Et n'ayant jamais inventé l'eau.
Et c'est comme ça que Gabriel pourrait ouvrir une librairie avec simplement du Balzac dedans.
Ah oui, c'est vrai.
Autrefois, Balzac,
d'un côté, de l'autre Proust.
Dans les livres de Modiano, Balzac, c'est un numéro de téléphone. Alors, on a parlé du citrate de bétaïne. Permettez-moi, chers auditeurs, de lancer moi aussi un appel international. Et je m'adresse aux pharmaciens. Le citrate de bétaïne, lorsque j'étais gamin, c'était en granulé jaune qui cassait. Et c'était bon, il y avait du goût. Donc on disait, maman, j'ai mal au ventre. Hop, on avait une cuillère de citrate de bétaïne. Maintenant, c'est des capsules qu'on met dans l'eau.
Comme l'Alka-Seltzer.
Voilà, ouais. Et ça ressemble de la Vichy Saint-Yor sans Lior et sans Vichy. Mmh. Voilà, maréchal, nous... Non, c'est pas ça. voilà. Donc... que faire pour faire fortune,
hein? Inventer l'eau chaude. Je pense qu'il n'y a plus que ça à inventer.
Oui, mais pour faire payer... Oui, alors maintenant, on fait payer l'eau chaude. Mais c'est Lénine qui disait « que faire, hein? ». Je crois que c'est le mot d'ordre. Que faire, camarade? Comment faites-vous, Orfeo, avec vos pépites d'or pour les revendre parce qu'il y a des intermédiaires, vous gagnez bien votre vie avec ça?
Ah, tout à fait. Il y a plusieurs marchés, évidemment. Le marché noir, le marché jaune, évidemment, le marché rouge et le marché français. Oui, il n'a pas de couleur, il est transparent comme les diamants de Cléopâtre. Et en vendant ces petites graines d'or, ces petites pépites, je me fais mon pain, je me fais ma vie et je vis librement. Voilà, je ne suis pas chapeauté par aucune institution. Certains pourraient... être tenté de dire que je suis dans l'illégalité, mais je pense que l'illégalité, c'est un mot qui peut se discuter. Si je suis dans la forêt qui n'appartient à personne, la forêt amazonienne est un parc naturel, réservé, protégé, que je protège moi aussi en y allant, en secourant les espèces en danger, pauvre gazelle, qui n'est pas dans la forêt amazonienne évidemment, pauvre alligator, qui ne trouve pas assez à manger pour nourrir ses pauvres petits-enfants.
Les oiseaux aussi.
Évidemment, les oiseaux.
Parce que vous êtes ornithologue.
Ornithologue aussi, évidemment. Oui. Oiseau de bon augure, je trouve mon pain.
Est-ce qu'on peut être diamanticolore pour les oiseaux qui sont transparents? Parce que non. Non, c'est...
Diamanticolore. Ça, c'est pour les oiseaux transparents. C'est pas pour les diamants en forme d'oiseau.
Non.
C'est différent, il ne faut pas confondre.
Oui, mais du coup, pour parce les diamants en forme d'oiseau, on dit comment?
Lapis. Ben oui, lapis voleuse.
Lapis l'a suivi.
Non, c'est dans Tintin et Milou, je ne sais plus lequel.
Oui, la Gazaladre.
Voilà, formidable. Ça donne envie d'aller à l'opéra, d'ailleurs. Alors, il paraît que l'opéra de Strasbourg, on va le démonter et le remonter, que ça coûte moins cher que d'en construire un neuf, ou plutôt l'inverse, de construire un neuf plutôt que de le réparer, parce qu'il paraît qu'il est cassé. Bon, ça vous dit rien,
en même
ça.
Temps, vous avez vu à quel point le lustre dans la salle principale de l'opéra est menaçant.
Ah bon? Il risque de tomber?
Ouais, à chaque instant, je crois.
Instant. Ah, c'est pour ça que les places au milieu sont...
Oui, un petit peu boudées.
À 6 euros.
Mais je ne les recommande pas.
Les autres payent 120 euros.
Avec oui, voilà. Oui.
Ouais. Alors, vous voyez très bien le spectacle, hein. Aussi longtemps que vous pouvez le voir. C'est aussi longtemps que le lustre voudra bien tenir.
En fin de compte, ces places sont réservées aux gens qui ont dépassé 30 ans de retraite active.
Ah oui, oui. Alors, merci. Donc, ça ne sert à rien d'aller manifester dans la rue. Donc, non, il faut avoir une retraite. Oui, la retraite à 90 ans. Bon, il y a bien la valse à 100 ans.
Ouais,
pourquoi pas la retraite à 90 ans pour certaines personnes un peu... Alors, elles seraient effectivement très riches. Hein, parce qu'avec tout l'argent, donc, toujours dans notre sujet, voilà. Donc, on aurait inventé encore quelque chose de bien. Mais je ne sais pas quand même, est-ce qu'on peut gagner de l'argent en faisant un opéra? Non. Faut-il gagner de l'argent? Ben, non. Ce qui est dommage, c'est qu'on dit que c'est juste une certaine catégorie de la population, en disant peu de gens vont à l'opéra mais tout le monde peut y aller.
Oui, je m'insurge. Oui, oui. Mon grand-oncle qui était cordonnier faisait les 70 km qui séparent les lacs de Lombardie pour aller à la Scala dans des places du poulailler pour aller à l'opéra. Bien donc sûr. Ça, c'est un discours populiste insupportable.
Absolument. Absolument. Et moi, je pense qu'il devrait y avoir des trams spéciaux du Neuhof, de Haute-Pierre, d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être que... On ne sait pas. Hein, peut-être qu'ils viennent voir l'opéra. Enfin, pour les quartiers...
Non, mais il y a des profs qui les emmènent.
Y a des, oui. Bah, ça, c'est les élèves. Oui.
Oui.
Bah, alors, ils viennent avec des stylos et ils font des sarbacanes. Vous savez, les bics. Mmh. On enlève le truc. On prend des grains de riz et puis... On essaye de tirer
sur
les chanteuses. Alors, l'Opéra de Strasbourg, c'est un peu grand et là, c'est loin. Mais lorsque j'étais lycéen à Haguenau, et qu'on nous emmenait à l'école, avec l'école, voir les fourberies de Scapin ou un Marivaux, on avait tous nos sarbacanes et on tirait des grains de riz sur les actrices. On essayait de viser un peu au-dessus du nombril. Ah. Ah, c'était très drôle.
C'est beau l'enfance, on dirait.
Oui. Mais voilà, voilà, c'est encore une autre façon d'être riche. Être riche de souvenirs.
D'éducation, de savoir. Oui, oui. Oui, l'art n'a pas de prix et c'est pour cela qu'il a besoin de plus de financement.
Oui, c'est ça. Donc, inventons tous la roue, parce que quand la roue tourne, c'est la roue de la fortune. Et quand c'est la fortune, on fait rêver tous les auditeurs. Et c'est comme ça la fin de cet épisode. C'était l'épisode numéro 24 de « Vous l'avez bien connu ». Tourloutoutou, la roue, c'est tout. Aujourd'hui avec Gabriel Rothschild, propriétaire de toutes les librairies de Strasbourg, Claire Crésus qui a inventé la vis sans fin,
Ozu Richard Kanemotsi Choya, Orfeo del Oro, orpailleur brésilien, et Cléopâtre Soussou, qui est diamantaire. À la technique, Thomas Marinelli. On se retrouve tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. And my golden name is Ambroise Perrin.